Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous cinéma qui, en l'absence de Thomas Rozek, vous propose plus qu'une séance, une expérience. Son titre, Laissez bronzer les cadavres, une invitation signée Hélène Katté et Bruno Forzani, un thriller, un western, un ovni qui a inspiré les très très aventuriers David Honora. Salut David.
Salut.
Et bonjour Lélo Jimmy Baptiste.
Salut Jarline.
Nos Ciné numéro 103, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Et je vais le tenter en camoulox. La Méditerranée, un soleil brûlant, 250 kilos d'or volé, des bandits en planque et des happenings dorés. Voici quelques-uns des ingrédients de ce film si particulier. Bande annonce.
Je n'aime pas les flics. Je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez? C'est une ambiance agréable en moi.
Oui.
Définir ce laisser bronzer les cadavres, le terme expérience vous semble-t-il adéquat, David ?
Oui, expérience, c'est même pas très loin d'expérimental. En tout cas, c'est de là que viennent ce duo de réalisateurs, un réalisateur et une réalisatrice, qui avait fait un premier film assez remarqué, qui s'appelle La Mer, et qui était presque un film expérimental, très inspiré du giallo et de tout un cinéma des années 70, qui est un cinéma un peu entre le cinéma horrifique et le cinéma érotique.
Et une inspiration qu'on retrouve aussi dans celui-là.
Et qu'on retrouve clairement dans celui-là, qui toutefois est un petit peu moins expérimental et a un vrai récit avec des dialogues, avec tout ça. Et malgré tout, il y a un petit système de sélection sur tout le pré-générique. Moi, j'ai vu le film en salle au hall avec un public. Et y a quand même 3-4 personnes qui sont sorties au bout de 10 minutes en se disant qu'est-ce qu'on est allé voir. Donc c'est un film qu'il faut aborder le cœur ouvert, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir au cinéma, donc le terme ovni n'est pas usurpé, et qui en même temps, moi je trouve, est très intéressant d'un point de vue esthétique, d'une part sur le travail du son qui est pour moi assez oui, exceptionnel.
Parce que c'est faut l'accueillir le cœur ouvert, les yeux ouverts et les oreilles ouvertes.
Exactement.
Aussi, hein, c'est très spécial.
Ouais. Et le deuxième truc, c'est visuel. Il y a énormément de travail et de recherche sur les raccords, notamment. Il y a plein d'idées. Je sais pas, un échange entre deux personnages de part et d'autre d'une table avec des raccords très rapides où on se rapproche de plus en plus du visage des personnages. Il y a des choses qui sont imaginées un peu tout le long du film. Et on suit cette histoire, donc qui est l'histoire d'un braquage, un braco très violent d'un fourgon plein de lingots d'or, et les brigands vont se cacher dans une petite ruine dans la Méditerranée et vont attendre en gros que la police débarque, et ensuite on vit un long siège avec des coups de feu dans tous les sens.
Et des happenings.
Et tu disais des happenings dorés, c'est même Euro doré. Je ne sais pas
oui,
si le tag existe.
Oui, c'est ça, il y a une scène assez mémorable
mais
implique de l'or et du pipi.
Voilà.
Est-ce que de l'or et du pipi, ça fait une bonne recette film,
alors,
Jimmy
justement. Non, mais moi, ce que j'ai, enfin, avant même de voir le film, c'était déjà assez excitant comme projet de toute façon, parce que ça reposait quand même sur deux principes, enfin deux défis, on va dire, assez importants. C'est-à-dire, le premier, c'était quand même d'adapter les manchettes, qui est un auteur qui est quand même très très difficile à adapter, puisque c'est un styliste en fait. C'est pas quelqu'un qui... Enfin, on parlait de Stephen King il y a pas si longtemps, dans deux trois émissions en arrière. Ouais. C'est pas la même chose. Stephen King, c'est des situations, des ambiances. Là, c'est vraiment un style particulier, c'est une écriture, ça se passe souvent à la tête des personnages. Donc là, c'était un peu le premier défi, parce qu'en plus tous les films, les adaptations de manchettes ont été à peu près ratées, que ce soit Trois hommes à abattre, Nada, etc.
Et là, les fans de manchettes sont très contents. Hein,
après, oui, parce que bon, après c'est aussi un des bouquins peut-être les plus simples à adapter, dans le sens où il y avait vraiment une histoire. Enfin, c'était assez, on va dire, minimaliste. Et puis le deuxième, on va dire, le deuxième défi, c'était Hélène Cattet et Bruno Forzani puissent faire un film finalement moins expérimental, enfin tout en gardant le côté assez radical, assez jusqu'au boutiste qu'ils avaient dans Amère et L'étrange couleur des larmes de ton corps, le deuxième film, et qui sont très bien, mais je peux comprendre que les gens n'aiment pas ou trouvent ça trop hermétique, parce que si on n'a pas un peu les références du giallo, du cinéma italien, on est un peu perdu, quoi. Alors que là, ça passe assez facilement.
Ça, c'est une vraie question. Ouais. C'est un film qui est ultra référencé. Mmh. Est-ce que justement, si ces références-là, on les connaît mal ou on les a pas du tout, est-ce que c'est pas un peu confusant?
Non, alors moi, je trouve pas. Bon, après, je les ai, donc c'est facile de dire ça aussi, mais j'ai pas trouvé, justement. J'ai regardé le film en pensant vraiment à ça, parce que sur les précédents, je me disais, mais les gens qui n'ont pas vu des films d'un tel ou un tel vont rien comprendre, quoi. Et enfin, même quand on les a vus, on comprend pas de toute façon, mais c'est vraiment un truc de référence d'univers. Là, non, je pense que ça passe plutôt pas mal, et bah, on est quand même sur des codes assez classiques, enfin policier, western, enfin c'est un peu un mélange des deux, pas vraiment, enfin western si par la musique, parce qu'en plus ils ont emprunté pas mal de BO
de
Morricone notamment,
et le style visuel aussi, il y a beaucoup de gros plans, la manière dont sont filmés les flingues, les tirs, les affrontements, et puis même le décor, tout ça renvoie un peu.
Après, ça m'étonne pas ce que tu as dit sur que des gens sont partis. Je trouve que la moins réussie, c'est le début, parce que justement le début, il y a un côté très technique, très visuel, très formel qui se met en place, et après ça passe, ça se gomme un peu, mais au début c'est vraiment, ils en mettent un paquet.
Mais c'est ça, faut passer outre ce côté extrêmement esthétisant qui, effectivement, surtout sur le début du film, perd c'est un ça. Peu sur, le, bah, le sur l'histoire.
Quoi. Voilà, et le générique notamment qui est aussi très giallo, très poliziesco, enfin les films policiers italiens des années 70.
Oui, enfin ça opère un peu un travail de sélection, on va dire. En fait, ce qui est quand même intéressant, c'est quand on parle de cinéma expérimental, c'est justement ce que produit ce travail d'expérience, c'est-à-dire que parfois en collant des bouts de film, en collant des images, et une grosse partie de l'aspect expérimental est sur le montage, ça donne des idées ou ça donne à voir des manières de raconter visuellement quelque chose qu'on n'a pas forcément déjà vu. Et je trouve que le film est très riche de ce genre de choses. Et du coup, on reste, à mon sens, même sans avoir les références, en fait, emporté par l'ambiance et par la foule de petites choses, de petites idées qu'on va trouver.
C'est vrai que sur le son, il y a vraiment un truc, parce que je pense que aussi, c'est un film qu'il faut dire aux gens d'aller voir en salle et de ne pas attendre de choper un rip dégueulasse.
C'est assez peu compliqué sur une télé. Hein,
voilà, parce que le son, effectivement, moi, ce que j'ai aimé, c'est un peu le film, c'est un peu l'anti-John Wick. Quoi. C'est John Wick, il y a 10 000 personnes se font tuer de manière complètement cartoon, jeu vidéo, et là c'est chaque balle pèse vraiment 3 tonnes, quoi. C'est vraiment
et on l'accompagne,
voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est un truc que j'avais vachement aimé. Après, il y a un côté aussi où les gens peuvent se retrouver, qui est le casting aussi, quoi, parce que ils ont quand même fait leur truc pour parler à toute une génération de cinéphiles, enfin assez large d'ailleurs, quoi.
Et Bernie Bonvoisin,
voilà,
chanteur de Trois, qui d'ailleurs racontait, alors ce qui va dans le côté expérimental et le travail de montage, qu'en fait pour certaines scènes ils ont demandé, les deux réalisateurs, d'abord d'enregistrer les dialogues, et en fait ils ont filmé les scènes ensuite. C'est-à-dire que même le travail de dialogue et d'image se sont faits en séparé.
Ouais, et puis y a, dans la démarche, il y a un petit côté dandy, en fait, qu'on retrouve même dans tout ce qui entoure le film. Par exemple, si vous regardez l'affiche du film, elle est vraiment... c'est pas du tout dans le style des affiches contemporaines. Elle est vraiment magnifique. Il y a un très très gros travail graphique et qui en plus est dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur leur précédent film. Même dans le titre, titre. Enfin, il y a quelque chose qui est clairement en fait en marge du gros du cinéma commercial actuel. Et à la fois ça peut peut-être rebuter certains, à la fois c'est aussi une respiration, c'est-à-dire que voilà, régulièrement dans nos ciné on crache sur les innombrables remakes ou les sagas à non plus finir. C'est intéressant de parfois aller voir un peu ailleurs et de voir des initiatives intéressantes.
Tu étais très différent et en même temps le film, la comparaison est venue plusieurs fois, on lui prête des vertus tarantinesques. Est-ce que c'est une hérésie?
Moi, je dirais que non. Enfin, après, c'est juste que c'est des influences que Tarantino a de son côté aussi.
Ça, donc, c'est en un fait, truc d'influence voilà. commune.
Ouais, en l'épluchant un peu et le casting et les gens qui sont un peu derrière, c'est un peu la génération Starfix, enfin, le magazine de cinéma des années 80 et tout début 90, que bon, moi, j'ai beaucoup lu. Et en fait, il y a vraiment cet esprit-là, c'est-à-dire c'est du mad movies qui aurait vu des films de Godard aussi. Quoi. C'est un peu ça. Quoi.
Ouais, c'est presque plus proche de Godard que de Tarantino parce qu'il y a dans la démarche cinématographique et cinéphile de Tarantino, il y a vraiment un désir de démocratisation, alors que là je pense que le côté dandy dont je parlais est plutôt resté dans son club et dans son... Enfin voilà, je comprends que la démarche n'est pas d'aller séduire tous les cinéphiles du monde entier, mais plutôt de rester dans une petite chapelle qui est très bien comme elle est, pourquoi pas.
Ouais, puis
mais c'est ça, c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire du cinéma pour tout le monde.
Oui, voilà. Puis après, il y a toujours des petites références. Voilà, on est très peu nombreux à avoir reconnu, enfin, avoir reconnu, non, personne ne l'a reconnu, mais tout le monde sait quelque chose dans le film. Il y a Marilyn Jess, qui est une actrice du X français qui est hyper connue, qui est un peu le double maléfique de.
Oui, qui est la dame Borgne.
Ouais. Qui est un peu le double maléfique de Brigitte Lahaie, quoi, dans le porno. Ouais. Quoi. Mais c'est que des petits trucs comme ça, ou Stéphane Ferrara, qui joue le rôle, enfin, le chef des braqueurs, qui est quand même un type qui a joué dans des polars dans les années 80 qui sont assez gratinés, quoi, notamment chez Multitre. La nuit du risque, un polar de droite financé par le RPR. Je vous recommande.
C'est conceptuel. Oui, c'est... Et il y a un vrai travail sur le corps, qu'il soit féminin, masculin, abîmé, magnifié, torturé par moments.
C'était déjà le cas dans les deux premiers, un peu. Ouais. C'est-à-dire, il y avait un truc. Bon, là, je me souviens de. Parce que j'ai déjà vu un petit moment, le film, pour le coup. Mais d'histoires sur tout ce qui était carcasse de poulet, d'animal, qui était assez. Qui revenait un peu en leitmotiv. Quoi.
Une scène de semi-bondage un peu étrange.
Oui, voilà aussi.
Bon, et puis il y a Bernie Bonvoisin à poil pendant 80% du film. C'est pas le meilleur argument de vente, je pense. Mais voilà.
Ça dépend, David.
Je sais pas, tous les goûts sont dans la nature. Mais ça me rappelle cette histoire d'animaux aussi. Voilà, un type d'idée visuelle que je trouve très intéressante. On est donc dans un décor, une ruine en haut d'une colline au bord de la Méditerranée. Et une des questions, quand on filme une scène de siège, de braquage avec des personnages qui sont positionnés à certains endroits du décor, c'est très important de réfléchir au découpage pour qu'on comprenne bien les enjeux et où situe l'action. Et en fait, ils utilisent des inserts qui en fait sont des petites fourmis qu'on voit sur une photo aérienne de la zone du décor. Et dans certaines scènes, par le montage, les fourmis qui courent partout figurent les déplacements des personnages. Et ce genre d'idée, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vraiment ce genre de choses qui font l'intérêt du film.
Mais ça, c'est vraiment une attaque qui ne peut pas être faite au film. Ça fourmille d'idées, c'est-à-dire de tous les plans, de tous les même des fois sur les dialogues qui semblent un peu déconnectés, un peu improbables.
Bah c'est le fameux la scène dont tu parlais tout à l'heure sur au bout de la table. Oui, il y a vraiment un côté genre on ne sait pas d'où ça sort, quoi. Les gens, forcément, des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de prise de risque, quoi, vont trouver que c'est un peu mal joué ou un peu, un peu théâtralisé, je ne sais pas. Quoi, mais ça, c'est, voilà.
On va facilement dans l'outrance.
C'est ça, oui, exactement.
Visuel,
à tous les niveaux.
Ouais. La mission ne va pas être facile, messieurs, mais la tradition est ainsi. On y dit, je ne sais pas, si je vous demande une reco. C'est vrai qu'après laisser bronzer les cadavres, c'est un peu spécial. Mais Jimmy,
moi j'en,
à toi.
Oui, j'en ai quand même, j'en ai même plusieurs, mais il y en a une notamment qui m'est venue, c'est Blind Man, le justicier aveugle de Ferdinando Baldi. C'est un western de 71 avec un justicier aveugle. Donc, c'est un aveugle qui doit escorter un wagon plein de femmes.
C'est Daredevil en fait.
Ouais, c'est ça. un wagon plein de femmes qui doit être livré à des mineurs. En fait, c'est les femmes des mineurs qui sont dans un wagon. Enfin, c'est déjà là, jusqu'à ça commence déjà pas mal. Et en fait, le wagon se fait détourner par Ringo Starr, qui veut en faire des prostituées. Voilà. Et donc on a donc un aveugle qui court après Ringo Starr pour récupérer un camion plein de nanas qui ne savent pas si elles sont mariées avec des mineurs ou prostituées. Et je prends celui-là parce qu'il y a notamment beaucoup de scènes surréalistes et qui sont assez proches de ce qu'il y a dans Les Bons et les Cadavres. Notamment, il y a une scène d'enterrement qui est assez incroyable où le frère de Ringo Starr meurt et il est enterré. Et pour l'enterrement, il repeigne toute une ville en noir, il y a toute une procession, c'est une scène de 10 minutes qui est assez incroyable. Ça se trouve assez facilement, je pense. Voilà.
Bon, c'est assez proche de l'univers visuel délirant.
Ouais.
On va dire.
Ouais.
David, une recommandation ?
Moi, je suis. J'étais tellement happé par la particularité du film que j'ai eu du mal à penser à des recommandations et j'étais à deux doigts là encore, on en parlait tout à l'heure, de faire la première recommandation d'un film de Jean-Luc Godard dans nos ciné.
Le moment ou jamais.
Et en fait, pourquoi pas.
Ça ne se reproduira plus jamais.
Pourquoi pas, mais lequel je vous recommanderais de voir un film récent de Jean-Luc Godard. C'est son avant-dernier film, c'est Film Socialisme, qu'il faut voir avec je dirais la même démarche que ce que je conseille pour Laisser bronzer les cadavres, c'est-à-dire le cœur ouvert et chercher au-delà de la prétention du personnage et de tout ce qu'on peut lui reprocher. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans sa filmographie, c'est sa capacité, toujours à un moment, à attraper quelque chose de totalement désarmant. Et c'est quelque chose que je retrouve dans tous ses films. Et il y a une scène dans Film Socialisme qui est sur le pont de ce bateau de croisière qui a plus tard coulé. C'est comment ça s'appelle, Concordia, je crois.
Oui.
Et donc il avait tourné effectivement sur ce bateau-là quelques années avant qu'il coule.
Ouais.
Et la manière dont les scènes sont filmées et la photo pendant quelques secondes dans le film, me restera à jamais. Et c'est le cas avec beaucoup de ses films. Donc voilà, ça n'a pas grand-chose à voir.
Si, tout. C'était limpide.
mais des liens.
Après ce très très beau point Godard, je suis au regret de vous annoncer que notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci David Donora, merci beaucoup Lélo Jimmy Battista, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, et on vous dit à très vite.
Rosebud.
Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.